Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à commencer. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, la situation se tend aux urgences à Rennes. Deux interviews, d'abord avec la musicienne Émilie Rougier qui a recensé les musiciennes rennaises, puis échange avec deux bénévoles de la maison du Ronceret dans le quartier Pommeray, avant un événement enquête et mystère. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, et puis deux recommandations, transfuge de classe et tomates. Bienvenue dans la Reine. Vous le savez, l'émission d'information locale, elle commence toujours avec une info du jour, une que je choisis parmi ce qui se raconte dans les médias locaux. Aujourd'hui, c'est le quotidien local Ouest France qui observe une situation tendue aux urgences rennaises. La nuit dernière et puis celle qui arrive, les urgences de la polyclinique de Cesson-Sévigné sont fermées en raison d'arrêt maladie du personnel et qui empêche donc un fonctionnement normal. Une fermeture qui a des conséquences sur les autres services d'urgence. La nuit de mercredi à jeudi a été, je cite, très tendu sur le site de Pontchaillou. Une trentaine de patients en plus ont été pris en charge. Louis Soula, c'est le chef des urgences du CHU de Rennes et du SAMU d'Ille-et-Vilaine. Il rappelle donc qu'il ne faut pas se rendre aux urgences sans passer par la régulation du 15, au risque de dégrader la prise en charge. Aux urgences de Saint-Grégoire, des patients ont purement et simplement été refusés, pourtant envoyés par la régulation du 15. La direction explique que les refus sont liés à une très forte activité et à un service saturé. Mais, selon Ouest France, là aussi, des urgentistes auraient en fait déposé des arrêts maladie, objectif alerter sur leurs conditions de travail. Alors si la situation se poursuit et se dégrade, le CHU de Rennes pense déjà à une régulation de l'accès aux urgences, ce serait inédit, avec un dernier facteur à prendre en compte. La fermeture le week-end du centre hospitalier de Fougères et puis la nuit de celui de Vitré. Allez, après cette info, on passe à la première interview du jour. Émilie Rougier, bonjour.
Bonjour.
Émilie, je vous présente, vous êtes musicienne, également productrice radiophonique et puis bretonne. Depuis 2 ans, vous réalisez un travail de recensement du matrimoine musical rennais dont on va parler aujourd'hui. Le concept de matrimoine, il fait quand même son chemin depuis quelques années, puisque même des collectivités locales aujourd'hui l'intègrent à leur programmation au moment des journées européennes du patrimoine et du matrimoine, donc ça c'est au mois de septembre. Vous, quand est-ce qu'il a débuté votre cheminement sur la place des femmes dans l'héritage culturel, là en l'occurrence musical ?
Et il a débuté il y a, on va dire, 3 ans, quand j'ai commencé à me rapprocher du jardin moderne, de réfléchir à un travail radiophonique à faire pendant, c'était encore des périodes confinées. Et j'avais envie de faire un travail d'enregistrement de ce qui se passait dans une salle dans une période confinée. Et donc je me suis rapprochée du jardin moderne à ce moment-là. On n'a pas trouvé, enfin il n'y avait pas beaucoup de résidences dans cette salle à ce moment-là. Du coup on a commencé à réfléchir à un autre travail parce que ça intéressait l'équipe de soutenir la production radiophonique. Donc on a imaginé des choses, des sujets qui nous tenaient à cœur et évidemment la place des femmes dans les musiques actuelles ce sujet s'est imposé de lui-même. Et du coup l'idée c'était de créer, j'avais envie de créer une fiction radiophonique autour du matrimoine musical et puis en fait pour commencer ce travail il fallait que je fasse un travail de recensement. Et donc j'ai commencé à rechercher les musiciennes bretonnes et rennaises pour pouvoir les intégrer dans un travail de création radiophonique.
Vous avez une position particulière, c'est que vous êtes vous-même musicienne, vous êtes passée dans différents groupes et vous êtes aussi DJ, donc ça vous donne forcément un regard particulier sur ces questions-là.
Oui, j'ai mon expérience, mon vécu de musicienne depuis 22 ans. C'est vrai que MeToo quand même a révolutionné notre façon de voir les choses. Moi, depuis mes 22 ans, j'étais dans des univers totalement masculins. Vraiment, je rencontrais des femmes très rarement sur scène, dans les loges et tout ça. Donc, pour moi, c'était un peu une réalité que je questionnais pas, qui était un fait. Et pareil, j'ai fait beaucoup de skateboard, je fais du surf. Donc, c'est des endroits où je suis habituée à côtoyer essentiellement des hommes. Et J'ai vécu une expérience un peu de sororité avec un spectacle de danse qui m'a vraiment ouvert les yeux, et c'était vraiment en 2017, donc c'était à ce moment-là. Et mes questionnements sont vraiment devenus prépondérants et inévitables pour moi à ce moment-là, et j'ai décidé de questionner moi mon rapport au matrimoine aussi, parce que j'ai aussi un héritage très masculin, musical. Et,
c'est quoi vos références ?
Masculine
ou autre, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique?
C'est un groupe qui s'appelle Transam, un groupe américain, un trio synthé guitare batterie, qui du coup mon groupe Marvin est un trio synthé guitare batterie. C'est vraiment le groupe qui nous a le plus influencé, et Divo, Kraftwerk, enfin voilà, c'était essentiellement des groupes masculins. Moi-même, dans mon groupe, je n'osais pas porter ma voix. En fait, je chantais dans un vocodeur, donc ça transformait ma voix en voix de robot, parce que j'adore aussi cet effet-là. Mais je ne trouvais pas ma voix très intéressante, parce que ma culture musicale était très masculine, du coup, mes modèles étaient masculins, et je trouvais que ma voix ne collait pas, du coup, à mes références.
Alors, l'ancrage du recensement dont on va parler, ce sont deux ateliers intitulés Matri Musique Party. Ils ont été organisés en partenariat avec plusieurs structures. Le Jardin Moderne, qui cogite quand même beaucoup sur la place des femmes dans les musiques actuelles. Et deux autres structures dont on dit un mot.
Alors, il y a HF Plus de Bretagne, qui sont sur ces questions de matrimoine depuis très longtemps. Il y a un pôle matrimoine au sein de la structure qui se renseigne et qui fait des créations aussi radiophoniques, genre L'île aux femmes. Donc, ils prennent cette question du matrimoine très à cœur. Et il y a Cartel, qui est une maison de disques rennaise. Enfin, non, je ne vais pas dire rennaise. Lisa, qui fait partie de cette maison de disques, est à Rennes, mais il y a Margot aussi, qui est à Bordeaux. Et d'autres personnes, excusez-moi si je vous oublie. Et du coup, voilà, je suis assez proche de Lisa et nous travaillons ensemble sur des DJ sets consacrés spécialement au matrimoine aussi. Donc, ouais, Cartel est une maison de disques qui ne produit que des artistes féminines. Et j'ai pas étudié tout leur catalogue, mais je pense des personnes non binaires
Trans.
Et trans, merci.
Les ateliers ont aussi été organisés avec le soutien de la ville de Rennes. Il y en a eu deux, donc un en mars 2023 et l'autre en ce mois de mars, là, 2024. On imagine un peu dans le prolongement de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À quoi elles ont ressemblé ces deux journées de rencontres?
À des vacances? Non, je sais pas. Elles ont ressemblé à des rassemblements très très joyeux et très instructifs et très fédérateurs. Enfin, c'était vraiment, ça nous a toutes fait du bien. En fait, c'est vraiment aussi partie de l'AG Égalité qui s'est passé au Jardin Moderne, je ne sais plus quelle année, 2022 peut-être, et de ce constat, de ce que ça nous faisait de nous retrouver entre musiciennes. À Rennes, ça crée beaucoup de projets, comme les apports musiciennes aussi, qu'on organise au Jardin Moderne.
C'était essentiellement des musiciennes qui sont venues aux ateliers?
Oui. La première année, nous avons eu quelques musiciens et quelques personnes hommes qui sont venues parce qu'elles voulaient apporter aussi leur héritage et leur matrimoine et discuter de ces questions avec nous. Et c'était super de partager ça ensemble. La deuxième année, il n'y avait que des femmes. Et ça ressemble à, en fait, une après-midi qui est plutôt une après-midi intime dans le club du Jardin Moderne, où on discute de notre rapport au matrimoine. On essaie de collecter, de recenser les personnes, femmes non binaires et trans, qui font de la musique à Rennes. On parle de comment développer la place de ces personnes-là dans la musique actuelle. On échange des outils, on échange des idées. Ça, vraiment, ça nous fait du bien. C'est un peu aussi, ça réunit les forces en présence qui sont actives et qui font déjà des choses. Comme ça, ça crée du réseau. Et ensuite, on passe... parce que c'est important de fêter ce qu'on fait. Et du coup, là, on fait des soirées quiz, blind test autour du matrimoine musical, où on rigole, on change un peu la donne, on demande retrouver ce batteur caché dans une playlist de 10 batteuses, voilà, pour montrer qu'en fait aussi, on existe, on est nombreuses. Et,
ça chante aussi.
Et ça chante aussi. Après, ça part en karaoké matrimoine, et c'est souvent très... très libre et jouissif.
Alors l'objectif de ces ateliers, Matri Musique Partie, c'était de recenser les artistes musiciennes rennaises, femmes cisgenres, trans et non-binaires. Elles sont combien au final pour le moment, sachant que c'est une liste qui est non exhaustive et qui est vouée à être complétée toujours ?
Oui, je tiens à préciser que je me suis concentrée que sur les styles de musique que je fréquente, on va dire, par mon expérience, que j'ai pas pu trop me balader dans les musiques traditionnelles, les musiques qu'on appelle musique du monde, mais j'aime pas trop ce terme, les musiques brésiliennes, africaines, tout ça. Donc c'est vraiment le rap, le rock,
plutôt musiques actuelles.
Voilà, vraiment les musiques actuelles. Donc je m'excuse pour celles qui ne sont pas référencées dans ce travail, mais c'est pas mon travail de le faire. C'est pas ma place. J'ai trouvé presque 300 artistes, et je pense qu'il y en a vraiment le double, mais dans les artistes qui ne jouent plus ou qui jouent encore, voilà, je me suis concentrée vraiment sur les projets où les femmes sont vraiment très présentes et plutôt leaders des projets, quoi.
Ces artistes, vous les avez catégorisés par genre, donc DJ, plutôt musique électronique, musique urbaine, rock, pop. Est-ce qu'il y a un genre où on les trouve plus représentés ?
J'ai trouvé, mais c'est aussi parce que je pense que c'est un biais affectif. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de filles qui bidouillaient avec des synthés, qui faisaient de la musique sur ordi, qui font des projets solo avec... Ouais, avait vraiment du synthé et de la musique électronique. Mais je pense aussi que c'est parce que les femmes ont peut-être plus de mal à se mettre en groupe et que du coup, ce genre-là est plus facile à éclore chez soi avec son synthé, son ordi et faire un truc très, très intime qu'on propose ensuite aux gens.
C'est peut-être aussi un espace safe où on se sent bien.
Ouais, je pense aussi.
Souvent, il s'agit de groupes de musique aussi avec de la mixité, quand ce ne sont pas des projets solo. Est-ce que vous avez pu un peu dégager, même à travers les discussions dans les ateliers, des éléments sur la place occupée par les musiciennes ? HF Plus Bretagne a bien montré à travers ses inventaires et ses études que, y compris dans les musiques actuelles, il y a encore du boulot pour que les musiciennes elles soient visibles, notamment sur scène.
Bah oui, on constate, elles ont fait un travail de statistique. Je crois que c'est entre 14 et 17% de femmes sur scène, sur les scènes de festivals, de musique actuelle, les SMAC et tout ça.
Et environ un concert sur deux sans femmes.
Oui, voilà. Que dire de plus là-dessus ? Oui, c'est pareil aussi sur les statistiques en termes de personnes qui répètent dans les studios de répétition, de personnes femmes. Je pense qu'on est à 12% aussi, par exemple, pour la fréquentation, par exemple au Jardin Moderne, qui est quand même une ville qui recense énormément de musiciens et musiciennes par rapport à d'autres villes. Enfin, moi, je viens de Montpellier et ici, c'est quand même 10 fois plus de personnes qui pratiquent la musique. Et voilà, dans une ville comme ça, on reste quand même à 12%. Donc, imaginons ce qui se passe à Toulon, quoi, par exemple.
À quoi ça sert un tel travail ? Certains, peut-être, diront on va pas diffuser tel projet juste parce qu'il est porté par une musicienne. Et puis, peut-être que si elles sont moins nombreuses, c'est comme ça, c'est naturel. C'est des idées reçues qu'il faut encore détricoter.
Mais totalement. C'est vraiment un discours qui me fait beaucoup de peine parce que je l'entends même parmi des amis hommes. On entend, aujourd'hui, il faut être une femme pour être programmée. Enfin, bon, c'est vraiment insupportable d'entendre ça. Et j'ai aussi des amis femmes qui disent, c'est comme ça. S'il n'y a pas de femmes, c'est que ça ne les intéresse pas. C'est complètement faux. C'est de la transmission culturelle qui n'est pas faite. Pour développer la place des femmes dans la musique actuelle. Moi, par exemple, j'ai fait 10 années de skateboard à une époque où il y avait vraiment, on était 10 en France. Aujourd'hui, il y a énormément de skateuses. Et ça s'est développé parce que du coup, les femmes ont eu de plus en plus d'exemples de femmes qui faisaient. Et plus il y a des exemples, plus il y a de la visibilité, plus il y a des femmes. Et c'est pareil dans tous les endroits où elles sont plutôt absentes. C'est parce qu'elles ne sont pas visibilisées. Et du coup, elles ne se sentent pas légitimes. Du coup, elles ne sont pas là. Donc je pense que plus on visibilisera la place des femmes dans la musique actuelle, plus elles seront nombreuses, plus elles se sentiront légitimes de prendre leur place, et voilà, plus il y aura de femmes et moins il y aura ce débat de merde.
Et vous, qu'est-ce que la musique vous a permis de faire ou d'être dans votre vie ? Question très philosophique.
Ça m'a permis de voyager déjà. Parce que le fait de partir en tournée m'a amenée dans tous les pays d'Europe et m'a permis de rencontrer beaucoup de cultures. C'est une façon de voyager que j'apprécie beaucoup parce que j'aime pas trop le tourisme, mais j'aime voyager et rencontrer les gens, les cultures. Donc quand on fait des tours d'Europe de façon très alternative et DIY, on rencontre vraiment les gens parce que c'est eux qui nous font jouer, c'est des associations, on est hébergé chez l'habitant. ça m'a apporté ça. Ça me permet aussi de... Je n'ai pas du tout réfléchi à cette question, de ce que m'apporte la musique. Disons que j'ai toujours eu envie d'avoir une vie un peu particulière et d'essayer de faire... J'aime pas parler de passion, enfin voilà, bon, c'est aussi un travail. Ça m'a permis d'avoir une vie un peu excitante. Et ça m'a permis d'exprimer des choses qui sont très intérieures parce que, voilà, c'est pas toujours facile pour une femme de s'exprimer, de dialoguer, d'imposer sa voix, d'être entendue dans la sphère publique. Et de s'exprimer avec la musique permet cela.
Alors, il y en a d'autres, des Rennais, des Rennaises, à penser la même chose sur la place nécessaire qu'on doit faire aux musiciennes dans les musiques actuelles. Vous avez identifié plusieurs actions d'empouvoirment sur le territoire à destination des musiciennes. Il y a le désormais traditionnel Girls Rock Camp qui met des jeunes filles sur scène au Jardin Moderne. Et toujours dans ce même Jardin Moderne, les apéros musiciennes que vous avez évoquées. Il y en a d'autres que je ne connaissais pas, on peut en dire un mot ?
Alors il y a l'école de la Boum qui se passe toujours au Jardin Moderne. C'est une DJ qui apprend aux femmes à mixer. Lisa aussi fait ce genre d'atelier. Lisa qui fait partie de Cartel et des Iquettes. Alors salut les Iquettes, ça se passe aussi au Jardin Moderne. C'est des ateliers d'empouvoirment et d'initiation à la musique en collectif. Donc c'est destiné à des femmes plutôt adultes, des personnes non-binaires et trans aussi. Et ça les initie à la construction en fait d'un groupe, à la musique en collectif, et dans un endroit très, très safe. Et ça porte ses fruits parce qu'il y a quand même beaucoup de création de groupes suite à ces ateliers. Et je crois que bientôt, en plus, elles vont... C'est aussi un atelier qui se passe à Paris. Je ne sais pas s'il y a d'autres villes qui font ça, mais je crois que bientôt, il y a la création d'une compile de tous ces groupes qui ont émergé suite à ces ateliers.
Il y a aussi les Jam Raymond, ça se passe où, ça ?
Alors, les Jam Raymond au Penny Lane, alors je ne connais pas la fréquence de ces rendez-vous. J'ai l'impression que c'est une fois par mois, mais peut-être je me trompe. C'est des jams en non-mixité. Du coup, il y a un groupe... qui est constituée et qui fait l'accompagnement instrumental, une batteuse, une pianiste, une guitariste, une bassiste. Ça peut tourner aussi en fonction des personnes qui se rendent à cette jam. Et d'ailleurs, il y a une prochaine soirée qui est le 15 juin et qui sera une soirée anti-patriarcale avec beaucoup de chansons revendicatrices féminines.
Si on parle de l'avenir du projet Matri Music Party, il y a maintenant l'idée d'organiser des ateliers comme ceux qui ont été organisés à Rennes 2 années consécutives, mais ailleurs qu'à Rennes et puis peut-être à une autre régularité.
Ah oui, j'aimerais beaucoup faire tourner avec ce projet-là. J'ai pas encore mis tout ça en place, mais il y a déjà des villes et des salles intéressées. Par exemple, à Nantes, j'ai des copines qui animent une émission sur JTFM. Peut-être que vous les connaissez, c'est les Détricoteuses. Et on espère en organiser une ensemble à Nantes. Je pense en organiser une à Caen aussi à la rentrée, parce que je suis déjà en lien avec un crew d'activistes qui veulent en organiser une là-bas. À Bruxelles aussi, en lien avec Radio Panique. Donc voilà, ça commence à se développer. Oui, l'idée, c'est en fait d'essayer de tourner le plus possible et en fait d'essayer de faire un petit tour de France pour justement travailler sur le recensement dans d'autres villes. Puis ensuite, ça peut être très bien un travail qui se réapproprie les personnes qui sont actives dans leur ville.
Et sur leur territoire. Émilie Rougier, on vous représente, vous êtes donc musicienne, productrice radiophonique. Et depuis 2 ans, vous avez mené un travail de recensement du patrimoine musical rennais. On vous retrouve en ligne sur une page SoundCloud où il y a par ailleurs une compilation qui a été mise en ligne donc de ces artistes rennais que vous avez identifiés. On va se quitter justement avec un morceau de cette compilation. Quel morceau vous avez choisi ?
Alors j'ai choisi Tiny Moon d'Aurore Pauvert. J'avoue, c'est une amie. Et j'avoue, j'adore ce morceau. Et je voulais le diffuser parce que c'est un très bel album qu'elle a fait, Aurore, qui s'appelle One, qui est sorti il y a bientôt peut-être 2 ans. Et malheureusement, elle n'a pas assez tourné, j'estime, avec. Elle aurait pu vraiment percer. Et il y a une, on va dire, un alignement des planètes, parce que ça, elle aime bien aussi les planètes, qui n'a pas été favorable à cela. Et moi, j'estime qu'elle a un grand talent et que je lui souhaite de faire un deuxième album aussi réussi.
On l'écoute avec le morceau Tiny Moon. Oh, oh.
Oh, 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 oh. over me.
Avec le morceau Tiny Moon sur Canal B, c'était le choix musical d'Émilie Rougier qu'on vient d'entendre dans une interview. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album qui est sorti en 2022, son titre One. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B. Canal B, une radio qui fête ses 40 ans cette année. À cette occasion, on a ouvert assez récemment un espace de dons pour soutenir le projet associatif de la radio. Si vous êtes un fidèle auditeur et que vous souhaitez continuer à écouter Canal B durant de longues années, eh bien, vous pouvez nous filer un coup de pouce en vous rendant sur la plateforme de financement participatif helloasso.com. Allez, on continue avec une deuxième interview. Serge Blouin et Chantal Sabin, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes deux bénévoles de la Maison du Ronceret. Serge, vous en êtes même le co-président de l'association qui pilote cet équipement. Et on va annoncer alors plusieurs événements, dont un qui arrive là samedi 8 juin, sous forme d'enquête et de mystère. On va détailler tout ça dans un instant. C'est aussi l'occasion de parler de votre engagement associatif sur le quartier. On est vraiment à deux pas de la poterie. Vous habitez pas tous les deux dans le quartier. On commence peut-être avec Serge, qui est bien un habitant. Depuis combien de temps ?
Moi, je suis effectivement un habitant, on va dire, historique de la poterie, parce que je suis arrivé dans le quartier en 1990. Donc j'ai vu l'évolution du quartier. Et pour revenir à mon engagement à la Maison du Ronceret, il est lié au fait que j'ai arrêté mon activité professionnelle et naturellement, puisque la maison du Ronceret est tout proche de chez moi, j'ai mis les pieds et j'ai découvert un équipement qui était vraiment à la hauteur de mes attentes du point de vue notamment de l'ambiance qui y régnait.
Chantal, vous n'habitez pas dans le quartier Poterie, vous êtes ailleurs dans Rennes, alors par quel biais est-ce que vous avez débarqué à la maison du Ronceret ?
Moi je suis venue aussi par l'intermédiaire d'un habitant qui a découvert le quartier grâce justement au Réfifi, à l'enquête, et comme ils hébergent des associations, nous faisons partie d'une compagnie de théâtre amateur, le Taïa de Haillercourt, et donc comme l'ambiance était sympathique et qu'ils hébergeaient... Nous sommes venus en contrepartie, nous donnons aussi du temps pour organiser des événements.
C'est quoi le projet du théâtre de l'arrière-cour
donc c'est du théâtre amateur.
Toutes les semaines, il y a des...
Toutes les semaines, on peut répéter. Et puis aussi, on participe aussi à l'élaboration du contenu des théâtres du Week-end Verdure et du Réfifi.
On décrit peut-être cette maison du Ronceret, qui est une vraie maison, donc dans le quartier de la Poterie. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'équipement, on est vraiment donc à deux pas de la station de métro La Poterie. À quoi ressemble le lieu ? Je dis à deux pas, c'est un peu plus que deux pas peut-être.
Oui. C'est à, on va dire, 10 petites minutes de la station de la Poterie. La maison du Ronceret est au cœur du quartier, d'un nœud routier en fait, hein, la rue de la Poterie. Et le nouveau boulevard qui a été créé dans les années 80, qui s'appelle le boulevard Hutin-Desgrés. Donc on est situé sur une maison historique, une maison de maître du quartier qui s'appelait La Poterie.
Quoi. Quand on franchit les portes, à quoi ça ressemble ?
Ça ressemble à une maison historique en fait. Hein.
Oui.
À une maison historique qui a été rénovée en 1994, je crois, qui a été d'abord un centre social. Et en 2004, c'est devenu une maison d'habitants, une maison qui a été créée par l'initiative et la volonté d'habitants qui recherchaient un lieu pour qu'il se passe vraiment des choses au cœur du quartier. Puisque La Poterie, était les habitants qui l'ont créée estimaient qu'ils étaient un peu à l'écart de tout lieu qui pouvait rassembler les habitants, créer du lien social et se retrouver.
Je voulais vous demander un peu quel regard justement vous portez sur ce territoire où vous vivez, en tout cas pour vous Serge, mais où vous êtes active comme bénévole Chantal. C'est un quartier prioritaire de la ville qui est un peu parfois réduit au fait de délinquance qui se produit sur le territoire. Vous faites nom de la tête, vous avez une toute autre image de ce qui s'y passe.
Oui, oui, oui. D'abord La Poterie c'est pas un quartier prioritaire, il y a une petite partie du grand quartier La Pommeraye qui est devenu politique de la ville depuis cette année. On est très voisins de notre quartier qui s'appelle Le Blon, où nous avons beaucoup de relations puisqu'on est très voisins. Mais nous ne sommes pas un quartier prioritaire, même si à La Poterie, on estime... Le grand quartier qu'on appelle le quartier La Pommeraye, désormais, depuis presque 2 ans, compte quasiment 20 000 habitants. Donc c'est un grand quartier sur lequel nous ne sommes pas, Maison du Ronceret, le seul équipement de quartier. On a le Cercle Polbert qui est plus orienté vers la jeunesse et le sport. Et une autre maison de quartier historique qu'on va citer qui est la maison Francisco Ferrer qui existe depuis le siècle dernier, on va dire.
Autre équipement
Mais
où il se passe beaucoup de choses.
On est réparti dans le territoire de façon à ce que chacun apporte son savoir-faire et ses orientations. On a aussi un bel équipement qui est la bibliothèque du Landry, située tout près du collège. C'est un équipement avec lequel on travaille, et d'ailleurs qui est un de nos partenaires historiques du RIFIFI, l'enquête mystère dans le quartier.
Alors, au sein de la maison du Ronceret, il y a 5 salariés, je ne dis pas de bêtises, qui travaillent, et puis entouré par toute une équipe de bénévoles. Vous êtes combien, là, comme vous, à vue de nez ?
On est nombreux. Alors, salariés, nous avons 4 équivalents temps plein salariés. Ça fait 5 personnes.
5 personnes, oui.
5 personnes. C'est une équipe très, très légère. Donc, c'est volontaire, de façon à laisser la place à l'initiative des habitants et des bénévoles qui animent les ateliers. Il faut savoir qu'il y a une 40aine d'activités régulières qui se déroulent tout au long de la semaine, des mois et de l'année. Toutes ces activités sont portées par des bénévoles qui viennent apporter un savoir, une technique, enfin, dans tous les domaines.
J'ai noté par exemple cuisine, chorale, informatique, de la sophrologie pour les ados ou encore pour les parents et leurs enfants, des comptes, de la motricité.
Oui, il y a aussi un partenariat avec quelques associations pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est une maison à initiative habitant. Donc, chaque habitant peut proposer quelque chose, que ce soit mensuel, une seule fois, ou une activité régulière. Ce qui permet aussi à des gens d'entrer dans cette maison et de découvrir plein de choses, tout en sachant que les activités sont menées par des bénévoles. Mais grâce à l'accueil, moi je vois, il y a des gens qui s'éclatent, hein, qui trouvent leur compte du lien social et de l'éducation populaire, comme dirait notre administrateur Jean-Christophe.
Oui, alors tu as raison, Chantal, de citer l'EducPop, l'éducation populaire, parce que c'est le cœur de notre projet et on le fait vivre au quotidien, en amenant à maturité des petits projets qui sont à peine qui sont en cours de réflexion. Et le rôle de notre équipe de permanents, c'est d'accompagner ces personnes à monter un projet. C'est ce qui fait l'originalité et l'attractivité aussi de notre maison.
On a cité le théâtre de l'arrière-cour dont vous faites partie, Chantal. En tout, ce sont près de 10 associations qui sont aussi hébergées dans la maison du Ronceret. On en cite quelques-unes, elles interviennent dans des champs très, très divers.
Ben, il y a une autre compagnie, comme la compagnie du troisième acte, mais il y a aussi des associations comme l'aide juridique. Je ne les ai pas toutes en tête.
Oui,
il y a les tisseurs de comptes, par exemple, qui répètent régulièrement aussi et qui aussi animent la maison dans la mesure où ils font des spectacles.
Bretagne Sens, ils sont toujours chez vous ?
Tout à fait. Oui. Bretagne Sens, c'est le commerce équitable Nord-Sud, une association qui est très active puisqu'ils engagent régulièrement de jeunes stagiaires tout au long de l'année.
Et donc pour les auditeurs qui seraient intéressés pour aller y faire un tour dans cette maison du Ronceret, elle est ouverte alors du lundi au vendredi, en tout cas avec l'équipe salariée, mais il se passe aussi des choses le week-end et qu'on va annoncer maintenant. Cet événement qui arrive, donc ça se passe samedi 8 juin du Rififi au quartier 7. 7, c'est le chiffre associé au quartier de la Pommeraye qui rassemble donc la poterie, le Landry et Francisco Ferrer. Ça fait combien de temps qu'il existe cet événement ? C'est pas une première.
Ouh, c'est un mystère. Moi, je l'ai toujours connu, en fait.
Moi aussi, qu'au début, c'était beaucoup plus grand. On faisait du cinéma dans le parc du Landry. C'est vrai
cinéma
que
en plein air.
Cinéma en plein air. Et après, nous avons un petit peu changé. Mais ça fait très longtemps. C'est presque, je pense, avec la maison.
Donc là, il y a déjà du mystère, puisque c'est le thème qui va être exploré. Il y a deux temps forts prévus l'après-midi. Je vous laisse un peu donner l'ambiance de ce que les habitants vont pouvoir découvrir sur place à partir de 14h.
Eh bien bon, à 14h, nous donnons rendez-vous à tous les gens du quartier et non du quartier, et tout âge aussi, parce que c'est vraiment aussi pour résoudre une enquête qui sera portée par la compagnie L'Atelier Théâtre. Donc c'est une enquête genre Cluedo, hein, avec des comédiens amateurs, des habitants d'ailleurs. Et donc nous donnons rendez-vous à des équipes de 6 à 8 personnes pour résoudre une énigme. Et ça se terminera par un goûter vers 17h.
Il suffit de venir s'inscrire sur place et c'est gratuit.
Je peux juste rajouter, Chantal, que la création de cette enquête mystère a démarré il y a un mois environ avec une douzaine de personnes, dont de nombreux ados, qui construisent le scénario. Et il va être finalisé, en fait, quasiment le matin même, de façon à ce que le mystère reste entier, que ça transparaisse nulle part. Et j'ajouterais que cette enquête réunit un grand nombre d'ados, de jeunes du quartier qui régulièrement, tous les ans, ont à cœur de participer à cet événement.
Alors, quelquefois, ils viennent enfants pour faire l'enquête. Et puis, on leur dit, si vous voulez, vous pouvez venir créer l'enquête. Et donc, l'année d'après, quelquefois, ils reviennent pour participer en tant que comédien.
La deuxième proposition, prendra place à 20h cette fois au Théâtre de Verdure qui est dans le parc du Landry, très beau parc à Rennes, peut-être moins connu que d'autres et qui vaut le détour. On y retrouvera une troupe, là encore, pour du théâtre.
Oui, c'est la TIR, le théâtre d'improvisation rennais, qui viendra proposer ses impros. donc sur le théâtre de Verdure qui se situe en face du collège du Landry, tout près de la bibliothèque du Landry.
Et c'est le public qui donnera le thème, les thèmes explorés par les comédiens.
C'est aussi du mystère, puisque quand on va venir au théâtre, on ne sait pas. C'est des mots qui sont lancés, des idées, et c'est la troupe de théâtre qui va les attraper et improviser en direct la soirée.
Alors vous avez déjà cité le partenaire qui est la bibliothèque du Landry et qui a proposé plusieurs choses avant donc l'événement de samedi. Toute la semaine, il y a eu plusieurs propositions à la bibliothèque et il en reste une à vivre le samedi matin pour les tout-petits, toujours sur ce thème enquête et mystère. On en dit un mot ?
Chantal ?
Oui, mais tous les ans, on essaye de proposer. La bibliothèque est très active pour nous proposer des activités autour de l'enquête. Donc, samedi dernier, il y avait une analyse d'une œuvre d'art avec une intervenante. Et puis, hier soir, c'était des histoires policières menées par des amateurs, donc qui présentaient des livres. Et hier après-midi, c'était les jeux de société. Et ça se termine samedi matin par une lecture proposée pour lecture frisson pour des enfants dès 5 ans.
Également à découvrir sur place toute une sélection de livres noirs, donc à voir à la bibliothèque du Landry à Rennes. On prend un petit peu d'avance pour annoncer une autre animation imaginée par la maison du Ronceret. Un peu d'avance parce que ça se passe sur deux week-ends, donc les 22, 23 et le 28 juin. J'imagine que ça se passe au théâtre de Verdure puisque ça s'appelle Week-end Verdure.
Oui. Oui, parce que nous avons eu à cœur de faire vivre ce magnifique théâtre de Verdure, puisqu'il a été rénové
dans le cadre du budget participatif.
Et donc, c'est un bel espace maintenant. Et donc, on essaye de le faire vivre à notre manière. Et donc, le 22 juin, nous aurons, et le 23 juin, avec la FETAR, qui est une association aussi qui fédère les troupes amateurs dans la région rennaise. Donc, on commencera par à 19h. Vous pouvez tous venir à 19h, même avec votre pique-nique, par du beatbox. Et puis après, la compagnie Orlémo nous présentera leur spectacle de théâtre, pour terminer par la compagnie Zigzag, qui nous présentera le spectacle sur le silence de ma mère. Et le lendemain, il y a encore deux autres spectacles de théâtre.
À vivre donc le dimanche 23 juin au Théâtre de Verdure du Landry. Et le vendredi suivant, le 28, à partir de 20h, on retrouvera le Melting Knot Orchestra, association qui répète donc à la Maison du Ronceret.
Tout à fait.
Et qui sera là pour présenter des musiques de films, musique jazz et pièces classiques. Tout le détail, il est à retrouver en ligne sur le site internet la-maison-du-ronceret.info. Serge Blanc et Chantal Sabin, on vous représente. Vous êtes donc deux bénévoles de la Maison du Ronceret. Serge, vous êtes même le coprésident. On a pu annoncer plusieurs événements. On vous retrouve en ligne. Peut-être juste dire un mot. J'ai noté qu'il était possible de faire un don toujours à la Maison du Ronceret pour soutenir votre projet et que vous recherchez ponctuellement des bénévoles. S'il y a des habitants du quartier qui nous entendent, les petites mains sont toujours les bienvenues, parfois ponctuellement.
Alors, vous dites les petites mains. Moi, je dis que c'est des bonnes mains, puisqu'on a besoin de bonnes mains et de bonne ambiance. Et c'est vrai que vous venez de dire, nous sommes aptes à recevoir des dons qui ouvrent droit à déduction fiscale.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Sababa 5 et Yurika avec le titre Kokoro sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et que vous retrouverez sur un album alors qui est attendu pour le 5 juillet. Ce sera le premier disque chez Batov Records pour ce groupe originaire de Tel Aviv, avec au chant la chanteuse japonaise Yurika Anashima. Vous venez d'en entendre un extrait de cet album dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui se termine chaque jour avec la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est le plus souvent des conseils d'événements à vivre dans la région rennaise et pour lesquels je n'ai pas eu le temps de consacrer un temps d'antenne plus long. Aujourd'hui, deux recommandations. D'abord, ce jeudi 6 juin à 19h, la super librairie L'Astrolabe, dans le quartier Maurepas à Rennes, reçoit la maîtresse de conférences en stylistique et langue française, Laëlia Véron. Elle a publié au mois d'avril « Trahir et venger » aux éditions La Découverte, et avec la maîtresse de conférences en analyse du discours, Karine Abivin, elle décrypte les œuvres de ce qu'on appelle des transfuges de classe, Annie Ernaux, Édouard Louis ou encore Nicolas Mathieu. Leurs livres ont connu de gros succès avec, c'est le concept, un récit de soi et de son milieu d'origine, des travaux qui contribueraient à, je cite, des propos lus dans Le Monde, une image biaisée de la mobilité sociale. Ça a l'air passionnant. J'ai aussi noté un parcours pédagogique, cette fois la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes. C'est gratuit et à voir jusqu'au 14 juin. Tomate Impact, c'est son nom, vise à informer les jeunes et leurs familles sur les liens entre alimentation et crise climatique. Le visiteur, il comprendra notamment, s'il ne le sait pas encore, pourquoi acheter une tomate à n'importe quelle saison sans regarder d'où elle vient ni comment elle a été produite, eh bien contribue à dégrader l'environnement et peut provoquer quelque part dans le monde la faim de quelqu'un. Le détail, c'est à lire en ligne sur le site mce-info.org. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.